Quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde la introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonjour
oui,
Nicolas.
C'est bien Nicolas. Bonjour Anne-Lee. Merci à l'oreille curieuse de m'accueillir effectivement cette première chronique, grande première pour moi. Une chronique psy, hein, tu l'as dit en introduction, puisque moi-même, je suis psychologue clinicien. Hein, personne n'est parfait, comme on dit.
Drôle d'espèce.
Voilà, une très drôle d'espèce. Et donc, cette petite chronique, le prêt-à-penser, eh bien, ça se propose d'aborder des problématiques de la vie quotidienne de façon plutôt simple, légère, sans trop de prise de tête, même si chronique psy oblige, on va quand même essayer de couper les cheveux en quatre. Mais je l'espère, en tout cas de la façon la plus intéressante possible et sans trop jargonner. Voilà. Et comme première thématique pour cette chronique ce soir, j'ai choisi de partir d'une situation, un peu cocasse, de cabinet de consultation. Une situation à peu près, a priori, anodine, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça. Comme vous le savez, nous autres, les psys, on aime bien se poser des questions. Et on a l'habitude de poser des questions aux patients qui viennent nous voir, à commencer par le traditionnel « Comment allez-vous ?» de début de séance. Ce « Comment allez-vous ?» eh bien, c'est une façon de donner la parole au patient et de l'inviter à dire comment il se sent, où en sont ses problèmes, etc. Bref, à se placer dans une posture introspective. Introspective, ça vient de introspection, donc regarder à l'intérieur, se regarder soi-même. Voilà. Et alors, eh bien, il peut arriver que de façon un peu surprenante, eh bien, le patient il nous réponde « Ça va et vous ?»
Surprenante ou polie.
Ou polie, ben, on va y venir. Mais en tout cas, surprenante parce que en général, c'est suivi d'un petit embarras quand même hein, de la part du patient. Un petit embarras parce qu'il se rend compte assez rapidement, vu la réaction en fait, du psy qu'il est en face de lui, que ce n'est pas forcément la réponse qu'il attendait. Et en plus de ça, autant vous le dire tout de suite, il y a très, très, très peu de chances que votre psy commence à vous emboîter le pas et à se confesser sur ses états d'âme du moment. Donc, on va voir ensemble, effectivement, qu'est-ce qui se cache derrière cette façon de répondre « ça va et vous ?» à son psy. Et pourquoi ? Est-ce que c'est gênant déjà hein, parce que c'est pas une évidence. Et pourquoi ça peut survenir dans un contexte qui, quand même, admettons-le, ne s'y prête pas vraiment. Donc, la première raison, Andy, tu l'as évoquée, hein, c'est la plus simple. C'est que dans la vie de tous les jours, demander à quelqu'un si ça va, eh bien, c'est un code social de politesse communément admis et pratiqué par tous. Et il est tout à fait de rigueur, quand on nous pose la question, de renvoyer la question à son interlocuteur. Ça prouve une espèce de réciprocité dans la considération. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Plusieurs fois par jour, ça va, oui, ça va, et toi, voilà. Un peu comme un réflexe de politesse, donc il est tout à fait probable que ce réflexe il soit aussi convoqué à la question du psy à son patient. Donc, pour moi, c'est très important parce que c'est important de commencer par prendre ce « ça va bien et vous » pour ce que c'est-à-dire une parole a priori bienveillante, une parole polie du patient à l'égard du psy. Et je pense même qu'il est très important, moi-même en tant que psy, de l'apprécier et puis d'en accuser réception. En plus, cela, ce qui cache rien, c'est que ça peut être perçu comme un indicateur positif de la relation patient-psy. Ça fait pas de mal. Mais, il y a quand même un gros mais. Hein. C'est qu'au-delà de cet aspect vraiment très, très, très sympathique, moi, à titre personnel, dans mon parcours professionnel, ça m'a renvoyé à une autre situation beaucoup moins sympa, où cette façon de me renvoyer le « ça va très bien et vous » était très, très, très récurrente. Et ce contexte, c'est le contexte de l'injonction de soins. Alors, Anne-Lise, est-ce que tu sais ce que c'est que l'injonction de soins ?
Alors, je commence à avoir des idées, mais en fait, j'en sais rien.
Eh bien, en fait, l'injonction de soins, tu vas voir, c'est très simple. C'est des situations dans lesquelles le patient, il n'a pas pleinement choisi, en fait, de venir voir le psy. Il est fortement incité, on ne va pas dire forcé, mais fortement, très fortement incité, par exemple, par une décision de justice, dans le cadre d'un allègement de peine, par exemple, ou d'un aménagement de peine. Donc, inutile de préciser que dans un tel contexte, on a souvent des patients qui viennent, au moins dans un premier temps, hein, parce qu'ils doivent venir, mais qui n'ont pas forcément envie d'être là, et encore moins de parler d'eux. D'accord ? Et donc, très souvent, moi, je leur posais la question, comment allez-vous ? Et ils me disaient, bien et vous ? Voilà, avec un ton, alors je ne suis pas hyper bon acteur.
Il y a une petite défiance,
en fait. Et ça se détachait un peu quand même hein, du contexte très sympa du cabinet où le patient essaye d'être poli, etc. Donc c'est vrai qu'on peut traduire ce « bien et vous » que me renvoyaient ces patients en injonction de soins en deux parties. Moi, je l'interprète en deux parties. Déjà, le « bien », C'est une façon de dire, il n'y a rien à voir, circuler. Et puis le « et vous », ben, très grossièrement, c'est « occupe-toi de tes oignons ». Quoi.
Ouais. Voilà.
Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient apporter à notre question de départ ? Eh bien, déjà, ça montre qu'une même réponse, avec des mêmes mots, ça peut avoir des visées apparemment complètement différentes. C'est-à-dire que ce qui était, dans le premier cas de figure, une ouverture relationnelle, ça peut aussi être utilisé comme une façon de fermer totalement la relation. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut se poser la question de savoir si finalement, au fond, l'une et l'autre de ces positions de patient sont si différentes que ça. Je m'explique. En fait, si on s'intéresse au résultat en fait, de la prononciation de, ce renvoi de question, eh bien, on s'aperçoit que c'est le même. En fait, le résultat, c'est que ça vient court-circuiter la démarche d'introspection induite par le thérapeute. Voilà. Autrement dit, on peut émettre l'hypothèse que peut-être même dans le cas de la politesse, eh bien, le fait d'interpréter la question, l'invitation à l'introspection du thérapeute comme une simple question de politesse, eh bien, ça peut être une façon d'éviter justement de se livrer, de remuer des choses plus ou moins compliquées, etc. Donc on serait peut-être face à un évitement au moins inconscient. Et là, on vient toucher du doigt un concept théorique, parce qu'il va y en avoir un peu quand même dans cette chronique.
Ouais,
un concept théorique de base, mis en lumière par l'illustre pionnier Sigmund Freud.
Le cocaïnomane.
Le cocaïnomane, entre autres.
Mes pionniers
de la psychanalyse, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la résistance en psychanalyse ? Eh bien, c'est très simple. C'est un principe général selon lequel le patient, en psychothérapie ou en analyse, alors même qu'il vient de son plein gré, alors même qu'il a une demande, un problème à résoudre, alors même qu'il paye aussi pour ses séances, eh bien ce même patient il va avoir tendance, inconsciemment, c'est important de le préciser, à freiner les progrès de la thérapie. Voilà. D'où le terme de résistance. En fait, c'est un semi-sabotage, en quelque sorte. Voilà. Mmh. Et cette résistance, elle s'explique de façon très simple. L'être humain, il préfère toujours l'équilibre, même précaire, même douloureux, au déséquilibre. Et une thérapie, ça vise par définition toujours un progrès. C'est une mise en mouvement. Voilà. Et donc, comme la mise en mouvement de la marche, par exemple, si on s'intéresse à analyser un peu les différentes étapes quand on marche, quand on fait des pas, eh bien, on quitte un équilibre, on accepte de mettre son corps en déséquilibre vers l'avant, quand on marche en avant,
oui.
Et puis on accède à un deuxième équilibre un peu plus rapproché que son objectif, et par répétition, voilà, ça s'appelle marcher. Donc on voit bien que d'un équilibre à l'autre, il faut accepter un déséquilibre. Et finalement, une psychothérapie, c'est toujours ça. C'est accepter de remuer des choses, pouvant provoquer un changement, donc quitter un équilibre précaire dans l'espoir d'un équilibre plus stable. Et il faut bien comprendre que le patient, quand il est installé sur le canapé ou allongé sur un divan, au moment de répondre à la question « comment allez-vous » posée par le thérapeute, eh bien, il est face à cette décision d'y aller ou pas, de risquer le déséquilibre ou pas. Et à ce moment-là, il peut intervenir un phénomène de résistance par une réponse à côté de la plaque. « Ça va bien et vous ?» Donc, en conclusion, je dirais que répondre « ça va et vous » à son psy, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout d'abord très appréciable et positif sur le plan humain. Et il ne faut pas oublier qu'une psychothérapie, c'est d'abord une relation humaine entre un patient et son thérapeute. Donc, quelque part, c'est très bien. Et je pense que, chers auditeurs qui nous écoutaient, qui suivaient une thérapie, vous pouvez compter, me semble-t-il, sur le recul et l'expérience de votre thérapeute pour apprécier votre démarche comme telle. Donc, petit conseil, ne soyez pas trop gêné. Il n'y a pas de gêne excessive à avoir non plus. Il n'y a pas péril dans la demeure. Mais par contre, attention quand même à ne pas sous-estimer la dimension de résistance que peut-être cette réponse vient trahir. Auquel cas, il conviendra au patient comme au thérapeute d'en tenir compte pour le bon déroulé de la thérapie, puisque cette résistance, au fond, elle vient toujours dire quelque chose de la position dans laquelle se trouve le patient, de ses craintes et de ses angoisses, que bien souvent, il ignore lui-même.
Mais alors, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment lui demander comment ça va, s'inquiéter de cette personne en tant qu'humain ?
Ah ben si, tout à fait. Mais il faut bien entendre, me semble-t-il, de quoi il est question quand même dans cette thérapie.
Ouais.
Et on y reviendra dans une chronique en préparation, justement, sur l'intérêt quand même pour le psy de rester un minimum mystérieux. Mais ce n'est qu'un teasing, nous y reviendrons.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux.
Super.